Enseignement du jour.
Plus proche de l'Évangile.
Bienvenue aux rencontres de formation et d'édification spirituelle. Rencontres au cours desquelles des messages de foi, d'édification et de restauration spirituelle sont délivrés. Le message qui va suivre vous est offert par
la radio Espérance FM sur la 95.2.
Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez renouvelés dans votre manière de penser, de vivre et de comprendre les événements de votre vie. Ce renouvellement se fera par l'action de votre foi. La foi qui n'est pas active est inefficace, mais lorsqu'elle est active, les résultats sont inévitables. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez cet enseignement.
Sœurs, bonsoir et merci d'être à nouveau à l'écoute de nos méditations sur les temps de carême. Nous écoutons pour commencer l'antienne d'ouverture de ce mercredi saint. Au nom de Jésus, que tout être vivant tombe à genoux au ciel, sur terre et dans l'abîme. Parce qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort des esclaves sur une croix. Jésus est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père et pour nous sauver. Nous le prions. Père, puisque tu as voulu que ton Fils meure sur la croix pour nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection pour ressusciter avec lui à une vie nouvelle, dans la paix, l'amour et la miséricorde. Toi, notre Père, qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Et pour ce dernier jour, le mercredi saint, avant de commencer les trois jours saints, nous voudrions réfléchir un peu à notre vie de famille. Cette année, c'est l'année de la famille, décidée par notre pape François, sous la protection de Saint Joseph. C'est le 5e anniversaire de sa lettre encyclique à Maurice Laetitia, la joie de l'amour, qui nous demande de nous aimer pour être dans la joie de l'amour dans nos familles. Comme il nous l'a dit pour le commencement de l'année de la famille, défendons la famille, soutenons-la. Défendons-la contre tout ce qui peut salir sa beauté. Et le pape François ajoutait dans son message, « Je prie pour que chaque famille puisse sentir dans sa maison la présence vivante de la Sainte Famille de Nazareth. » La famille de Nazareth, la Sainte Famille, qui remplit de joie nos propres familles, nos maisons, nos petites communautés domestiques, d'amour sincère et généreux, source de joie, même dans les épreuves et dans les difficultés, car nous savons bien que nos familles rencontrent de nombreuses difficultés. C'est difficile de faire vivre nos familles. C'est difficile de nourrir nos familles, nos enfants. C'est difficile de nous entendre dans nos familles. C'est difficile de vivre en paix et dans la confiance, spécialement en ce temps de coronavirus, de pandémie, qui nous amène trop de soucis. Et pourtant, le Seigneur nous propose de vivre cette année de la famille dans la paix, dans l'espérance. Mais pour cela, il faut nous engager à garder des liens d'amour entre parents et enfants, et aussi avec nos grands-parents et tous les autres membres de nos familles. Ces liens sont nécessaires pour vivre et pour bien vivre, et aussi pour rendre toute l'humanité plus fraternelle. La base de la société nous permet vraiment de vivre ensemble. La famille, c'est la base d'une société heureuse. Bien vivre en famille, c'est rendre service à toute l'humanité, à la rendre plus fraternelle. Et c'est pour cela que le pape François nous demande, pendant toute cette année de la famille, de travailler dans deux sens, les deux dimensions de notre pastoral, de notre travail avec Dieu dans l'Église. Oser annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile sur la famille et accompagner les familles en difficulté avec amour et avec tendresse. Et comment faire pour cela? Nous avons sans doute lu le message de nos évêques dans la lettre de carême de cette année. Et si nous ne l'avons pas encore fait, ou si nous l'avons déjà fait, c'est encore possible de la relire pour la méditer. Le jour de la fête de Saint-Joseph, le pape s'est d'abord adressé au papa, au père de famille, en leur demandant d'être un bon père. Être un bon père, qu'est-ce que ça veut dire pour le pape? Ça veut dire tout offrir et s'offrir soi-même sans rien garder pour soi. Ça veut dire protéger la famille, mais sans l'écraser, sans l'étouffer, sans vouloir la commander, en la laissant libre. C'est pardonner aux membres de la famille s'ils nous font souffrir ou s'ils se conduisent mal ou font des mauvaises choses. Pardonner sans rien demander en échange, en retour. Le pape nous demande aussi, il demande au papa d'attendre que les enfants grandissent, d'attendre avec patience, avec confiance, de suivre l'exemple de Dieu notre Père, qui est un bon Père. Et c'est pour cela que nous prions pour tous les papas de la terre. Et puis dans son message, le pape adresse aussi donc ses vœux pour les femmes, pour les mamans. D'abord pour les femmes, où il demande que dans la société, nous respections leurs femmes, nous leur donnions leur place, que nous les traitions avec égalité, en particulier dans le travail, pour toutes les femmes qui travaillent à l'extérieur, mais aussi dans ces femmes pour lesquelles quelquefois on dit qu'elles ne travaillent pas, alors qu'elles s'occupent des enfants, elles s'occupent de la maison, qu'elles sont les premières à se lever et les dernières à se coucher. Que l'on respecte aussi les femmes qui ont perdu leur travail, en particulier à cause de cette maladie du coronavirus qui a envoyé tellement de personnes au chômage. Le pape nous rappelle que la place des femmes est très importante et qu'elles peuvent beaucoup apporter dans la société, même dans le domaine politique, dans le travail, dans toutes les organisations. Le pape nous rappelle que la naissance de l'humanité à une vie nouvelle a commencé avec une femme, par la Vierge Marie. C'est par elle, la mère de Jésus, notre Sauveur, que le salut est arrivé sur la terre. Et le pape dit avec force qu'il n'y a pas de salut sans la femme. Le pape, pour cette année, dans son message, s'est adressé aux parents, c'est-à-dire à l'homme et à la femme ensemble, en leur demandant d'agir ensemble avec leurs enfants. Pas seulement chercher à les éduquer en donnant des conseils, en les aidant à bien vivre, mais aussi les passer du temps avec leurs enfants, et même passer du temps pour jouer avec leurs enfants, pour que l'éducation qu'il le donne ne se fasse pas seulement dans des conseils, pas seulement dans des punitions, surtout pas dans des coups, mais dans la joie. Et enfin, le pape s'adresse aux jeunes, aux enfants et aux adolescents, pour qu'ils donnent une plus grande valeur au temps présent. Ils ont leur place dans leur société, mais à condition de rester humbles, de rester à leur place, de continuer d'attendre, de grandir avec patience en acceptant d'être conseillé, d'être éduqué. Le pape dit même que ce sont eux qui vont payer le prix le plus élevé de la crise du coronavirus, car c'est leur avenir qui risque d'être cassé. Ils vont payer le prix de l'écologie, car c'est nous qui cassons, qui salissons, qui réchauffons la terre. Et quand ils vont devenir adultes, ils vont trouver une terre qui sera cassée. Le pape prie pour que les jeunes gardent la force et aussi le courage, ce qu'il appelle la fraîcheur, l'espérance, pour devenir des hommes et des femmes adultes qui connaissent l'importance de l'amour et de la charité. C'est pourquoi il dit aux jeunes, même si vous avez l'impression d'être dans la nuit, que vous n'avez pas d'avenir, qu'il n'y a que le chômage, que la société est en train de devenir de plus en plus faible et mauvaise. Ne vous laissez pas décourager. Et nous écoutons ce chant. Nous demandons au Seigneur de nous encourager, de nous sauver, de nous faire vivre dans la paix et dans l'amour. Donc, nous continuons notre méditation à partir de la lettre encyclique du pape, La joie de l'amour, pour voir comment vivre notre vie de famille en ce temps de carême et dans cette année de la famille que nous avons commencé pendant ce carême, le jour de la fête de Saint-Joseph. Le 19 mars. Le pape nous rappelle que la famille, c'est elle qui amène les bonnes choses, les valeurs positives dans toute la communauté, dans toute la société et aussi dans tous les groupes, les associations, les rencontres, les réunions. Dans nos quartiers, dans nos villes et dans nos villages. Et que cette année de la famille, c'est le bon moment pour comprendre l'importance de la famille, pour évangéliser nos familles, pour qu'elles vivent dans la joie de l'évangile, dans la joie de l'amour, pour qu'elles reçoivent la charité que Dieu nous a envoyé. Et le pape nous demande de penser spécialement à nos enfants et aux jeunes, parce que c'est l'âge où ils doivent découvrir leur vocation, se préparer à construire les familles de demain, des familles où on s'aimera, des familles où on sera courageux devant les difficultés de la vie, des familles ouvertes à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui n'ont pas leur place dans la société. C'est pour cela que nous devons aider aussi nos enfants à s'engager. S'engager d'abord dans les paroisses, dans nos mouvements, mais aussi s'engager dans les associations, dans les quartiers, dans les AIC, s'engager dans leurs écoles, dans n'importe quelle école, que ce soit une école catholique ou une école officielle ou une école privée, laïque, s'engager, prendre leurs responsabilités selon leurs possibilités. C'est la meilleure façon, en vivant une amitié entre garçons et filles, dans le respect, qu'ils se préparent à devenir des couples de fiancés jeunes, heureux, sérieux, et ensuite, dans le mariage, de construire des familles solides, des familles qui aiment les autres parce que d'abord ils s'aiment dans leur mariage entre eux. Cette année, ce carême que nous avons vécu et que nos évêques ont placé sous la protection de Saint Joseph, c'est donc une belle occasion pour transmettre à nos enfants et à tous les jeunes, pas seulement à nos enfants, à nous, mais tous les jeunes avec qui nous pouvons être en relation, leur faire comprendre la beauté de l'amour chrétien vécu dans la famille. En effet, souvent, dans notre Église, dans nos paroisses, nous pensons à aider les familles qui souffrent, à soutenir ceux qui sont seuls, à aider les divorcés, à aider les familles pauvres, les familles séparées, ou bien les pères de famille qui sont loin de leur famille parce qu'ils sont partis chercher du travail au loin, aux familles cassées à cause de la guerre, des attentats, à cause de la pauvreté, où les parents sont obligés de partir au loin pour envoyer de l'argent à la famille qui restait au pays. Tout cela, c'est très important. C'est l'amour de Jésus-Christ. Il faut que nous continuions à le vivre. Mais il faut aussi que nous aidions les familles qui vivent ensemble, que nous aidions toutes les familles, même celles qui s'entendent bien, les aider à vivre dans la foi, à vivre les jeunes leur vocation au mariage, à être des exemples, à être des encouragements pour les autres autour d'eux. Nous avons besoin du soutien et de l'exemple de familles qui s'aiment, d'hommes et de femmes mariés, unis, qui se respectent, qui sont heureux, qui se traitent à égalité, de parents qui aiment leurs enfants et d'enfants qui aiment leurs parents. Nous avons besoin de familles, notre grande famille africaine, qui soit heureuse. Et c'est pour cela que le pape demandait cette année aux prêtres de soutenir les familles, en disant que les familles ont besoin de pasteurs qui soient comme des frères et comme des pères, prêts à aider les familles, à les éduquer, mais aussi prêts à apprendre des familles, car les familles nous montrent des bons exemples. Ils nous montrent comment nous aimer, nous aider, nous respecter et vivre ensemble. Tous, nous souhaitons avoir une famille heureuse. Mais nous savons que c'est difficile. Et c'est pour cela que beaucoup de jeunes ont peur de s'engager. Ils vivent ensemble, mais ils ne veulent pas se marier pour toujours. C'est à nous de les soutenir, de les préparer au mariage, de leur donner confiance en eux-mêmes et confiance en Dieu qui est toujours avec nous, de garder l'espérance. Et pour cela, d'apprendre déjà aux jeunes à vivre une vraie amitié entre garçons et filles, à aimer, à aider nos enfants à découvrir leur vocation, que ce soit le mariage, la vie religieuse ou être prêtre. Mais surtout, il nous faut passer à l'action. Il nous faut aider les familles, que nous soyons mariés ou non, aider les familles qui sont autour de nous, les soutenir, les éduquer, les conseiller, parler avec elles, les aider à s'aimer, à se réconcilier, à vivre dans la paix, à se pardonner. Mais pour cela, la première chose, c'est bien sûr de le faire dans notre propre famille. Nous allons célébrer cette fête de Pâques. Nous nous confessons pour recevoir le corps de Jésus-Christ dans la communion en ces fêtes. C'est très important. Mais il ne suffit pas d'aller nous confesser à un prêtre. Il faut d'abord que nous réconcilions en famille. C'est important que ces jours-ci, avant Pâques, nous prenions un temps pour nous retrouver en famille. moins les parents avec les enfants, mais si possible aussi avec les autres membres de la famille, les grands-parents, les oncles, les tantes et les cousins, s'ils vivent dans la même ville, que nous nous retrouvions ensemble pour prier ensemble. Et après un temps de prière, pour nous pardonner, pour nous réconcilier, pour avoir la paix, pour pouvoir fêter la fête de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ dans la paix, dans la réconciliation, dans l'amour. Prenons ce temps de pardon et d'entente. Et à ce moment-là, nous pourrons ressusciter à une vie nouvelle avec Jésus-Christ. C'est important que nous voyons ensuite, tout au long de cette année de la famille, qu'est-ce que nous allons faire dans notre paroisse. Qu'est-ce que nous allons faire pour écouter les familles, pour aider les familles à se rencontrer, à se connaître, pour mieux vivre une vie de famille, plus d'entente, plus d'amour, plus de partage, pas seulement manger ensemble, mais échanger des idées, nous conseiller, nous encourager, nous soutenir, et que cette année, ce soit aussi une bonne année pour les vocations, pour toutes les vocations, que nous aidions chacun des jeunes, de nos enfants, à trouver leur vocation. La vocation, ça veut dire l'appel, découvrir l'appel que Dieu adresse à chacun. À quoi il l'appelle? Qu'est-ce qu'il lui demande de faire de sa vie? Quelle qualité il a donné à chacun? Pas seulement pour réussir sa vie, en tout cas pas pour la réussir tout seul, mais pour réussir son avenir avec les autres, en aimant les autres, en aidant les autres, en leur rendant service. Nous avons besoin que tous, les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens, découvrent ce à quoi Dieu les appelle, les qualités que Dieu leur a données pour cela, que chacun nous nous demandions, qu'est-ce que nous allons faire de notre vie? Qu'est-ce que nous nous en faisons si nous sommes adultes, si nous sommes mariés? Mais qu'est-ce que aider nos enfants à découvrir qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie? Et bien sûr, si Dieu les appelle spécialement à être prêtre, à être religieux, sœur ou frère, à répondre aussi avec courage à cette vocation. Et s'ils décident de se marier, qu'ils ne se marient pas seulement pour être bien ensemble, pour que le mari ait quelqu'un, une femme pour faire la cuisine et s'occuper de la maison, que la femme est quelqu'un qui va lui donner de l'argent et l'aider pour la dépense de chaque jour. Le mariage, c'est aussi une vocation, c'est un appel de Dieu pour vivre l'amour de Dieu à deux en se soutenant les uns les autres et pour faire grandir l'amour dans la société. Nous prions le Seigneur pour qu'il nous aide à vivre cet amour en vérité. Continuons donc, frères et sœurs, à réfléchir comment vivre cette année de la famille que nous avons commencée pendant ce carême, le 19 mars, à la fête de Saint-Joseph. où le pape nous dit que cette année, plus que les autres années, nous sommes appelés à travailler dur pour rendre plus fortes nos familles, pas seulement dans l'Église, mais dans la société. C'est un chemin que nous avons commencé et que nous allons vivre pendant toute une année. La force de la famille, donc, ne s'arrête pas à l'intérieur de notre maison. Nous devons vivre ce que nous vivons fortement dans notre communauté chrétienne, mais aussi dans notre communauté humaine, dans notre quartier, avec les ONG, les associations, les organisations. Et nous devons chercher surtout à aider les jeunes, tous les jeunes, pas seulement nos propres enfants, mais tous les jeunes, surtout ceux qui n'ont pas de famille, ou ceux qui vivent dans des familles qui sont cassées à cause de la pauvreté, ou à cause de la méchanceté, ou à cause de la guerre, de toutes les souffrances. Nous sommes responsables de tous les jeunes, pas seulement nos enfants, à nous. Encore une fois, les aider à découvrir leur vocation, ce à quoi Dieu les appelle, comment réussir leur vie, comment se préparer au mariage, comment construire des familles de demain. Le pape nous dit que tout ce que nous faisons pour éduquer nos enfants, ce sont comme des graines que nous semons pendant leur jeunesse, dans leur cœur, et qui va pouvoir grandir pendant toute leur vie. Et pour vivre notre vie de famille, nous la vivons à l'exemple de la Sainte Famille, à l'exemple de la famille de Joseph, de Marie et de Jésus. Joseph et Marie qui se sont aimés d'un amour extraordinaire. Joseph et Marie qui étaient ensemble pour éduquer leur enfant Jésus. Joseph qui acceptait Marie qui était enceinte en lui faisant confiance, en continuant à l'aimer, alors qu'il savait que ce n'était pas lui qui l'avait enceinté, mais en continuant à l'aimer malgré tout et en acceptant qu'elle soit la mère de Jésus par la force de l'Esprit-Saint, parce qu'il croyait lui-même à l'Esprit-Saint. Joseph qui a pris ses responsabilités, qui a pris Marie et Jésus qui était encore un bébé, qui les a pris en pleine nuit, qui sont partis à pied alors que le roi Hérode voulait les tuer, jusqu'en Égypte. Joseph qui a éduqué son fils Jésus, qui lui a appris un métier, mais qui lui a surtout fait grandir dans la paix et dans l'amour, dans cette famille, dans ce mariage, où Marie et Joseph vivaient un amour extraordinaire. À nous de vivre comme eux, pour réussir notre vie de famille. Et puis nous pensons aussi, non seulement aux familles pauvres, aux familles qui souffrent, aux familles séparées, aux familles qui sont en pays étranger, qui ont quitté leur pays, aux réfugiés, aux émigrés qui sont parmi nous. Nous pensons aussi à ceux qui n'ont pas réussi leur vie de famille. Le pape, dans sa lettre « La joie de l'amour », nous demande spécialement de penser et de respecter les divorcés et remariés. Bien sûr, s'ils se sont séparés, c'est triste. Ils s'étaient mariés à l'Église. Ils se sont engagés devant Dieu à s'aimer pour toujours, à être les témoins de l'amour de Dieu dans le monde, dans la société. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu s'entendre. Ils se sont séparés. Et non seulement certains se sont séparés, mais certains se sont remariés. Bien sûr, ils n'ont pas été fidèles à leur mariage. Mais nous n'avons pas à les condamner. Dieu ne condamne personne. Dieu ne rejette aucun de ses enfants. Dieu donne à chacun la chance de revivre sa vie à nouveau. Or, trop souvent, nous rejetons, nous condamnons les gens mariés, divorcés. Nous disons que ce sont des pécheurs, qu'ils ont été infidèles. Ils n'ont pas besoin de condamnation, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'être soutenus. Même s'ils n'ont pas pu être fidèles à leur mariage, ce n'est peut-être pas de leur faute. Et de toute façon, ils sont toujours chrétiens, ils sont toujours enfants du Père, et Dieu continue à les aimer. C'est pour cela que nous devons les accueillir dans notre communauté chrétienne, les aimer, les respecter, les aider à continuer à vivre leur vie chrétienne et même à prendre leurs responsabilités. Les responsabilités qu'ils peuvent prendre dans l'Église et les responsabilités qu'ils peuvent prendre dans la société. Et même ceux qui vivent en état de péché, nous n'avons pas à les condamner. Rappelons-nous ce que Jésus a fait. Ce qu'il a fait avec des hommes comme Zachée. Quand il voit Zachée qui est monté dans un arbre, alors que c'est un chef de village, qu'il a des responsabilités, un récolteur d'impôts, mais qu'il n'a pas honte de monter dans un arbre, de courir devant les autres pour rencontrer Jésus. Jésus lui dit, je vais venir chez toi. Jésus veut venir chez les pécheurs. Même quand les gens le condamnent, les autres se mettent en colère en disant, mais pourquoi Jésus va manger chez un pécheur, comme Zachée, un voleur? Mais Zachée sait, Jésus sait très bien pourquoi il va chez lui. C'est chez lui. Il lui dit, je vais manger chez toi, pour qu'il change sa vie, qu'il change son cœur. Et c'est bien ce que Zachée fait. Et Zachée apprend à aimer. Il dit, la moitié de ce que j'ai, je vais le donner aux pauvres. Et il apprend à être juste avec les autres. Et il dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais le payer 4 fois. C'est de cette façon que Jésus appelle tous les hommes pécheurs à changer leur vie. Ceux qui ont péché dans leur responsabilité, dans leur travail, ceux qui ont péché aussi dans leur mariage, les hommes comme les femmes. Rappelons-nous celle qu'on appelle Marie-Madeleine, la femme prostituée. Quand le pharisien Simon a invité Jésus à manger, quand cette femme voit Jésus, elle est complètement bouleversée. Elle se rend compte qu'elle mène une vie mauvaise, une vie de prostitution, que non seulement elle fait le péché, mais qu'elle est exploitée, qu'elle est utilisée par les autres, par des hommes qui profitent d'elle, sans respect, pour de l'argent, pour un plaisir sexuel vécu sans amour. Elle se met à pleurer, elle regrette ses péchés, elle tombe à genoux auprès de Jésus, et quand elle voit que ses larmes mouillent les pieds de Jésus, elle les essuie avec ses propres cheveux. Simon le pharisien, qui est un homme juste, qui prie, qui jeûne, qui fait l'aumône, qui garde les 10 commandements, qui est un homme très sérieux, mais qui ne comprend rien. Il pense dans son cœur, si Jésus était Un prophète, il saurait que cette femme, c'est une femme de péché, c'est une prostituée. Mais Jésus le sait bien. Et c'est pour ça qu'il dit à Simon, tu vois Simon, cette femme, elle a péché. Elle a beaucoup péché. Mais Dieu va beaucoup lui pardonner parce qu'elle a beaucoup aimé. Le pharisien voit les péchés de cette femme. Il la rejette. Il dit, c'est une prostituée. Jésus, lui, en regardant cette femme, il ne voit pas son péché. Il voit que c'est une femme. Que même si elle a péché, même si elle s'est prostituée, c'est une femme. C'est une fille de Dieu. C'est une de ses sœurs. Qu'elle a toujours sa dignité. Et que non seulement elle a ses dignités, mais qu'elle est en train de changer, qu'elle regrette le mal qu'elle a fait, qu'elle veut aimer, même si elle n'en est pas encore capable. Jésus ne voit pas ses péchés, il voit l'amour, le désir de son cœur. Même si elle n'a pas encore changé, il voit qu'elle veut changer, il lui fait confiance. Il voit l'avenir qu'elle peut avoir, il lui pardonne. Et il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Et il l'aide à repartir dans la paix. Et non seulement il repartira dans la paix, mais si effectivement il s'agit de Marie-Madeleine, elle sera une des femmes qui va accompagner Jésus. Jésus a eu confiance en elle, elle a complètement changé sa vie, elle a laissé la prostitution, elle a aimé, elle s'est engagée dans l'équipe des apôtres. Et lorsque même les apôtres ont tous fui quand on allait tuer Jésus, elle était là, au pied de la croix, avec Jésus, avec les autres saintes femmes, auprès de Marie. Et c'est à elle que Jésus est apparu quand il est ressuscité en premier. Et c'est elle qui l'a choisi pour aller annoncer sa résurrection au pape, au premier pape, Saint-Pierre, et à l'apôtre qu'il aimait, Saint Jean. C'est elle la première missionnaire. Jésus n'est pas apparu à Saint Pierre, qui était pourtant la pierre sur laquelle il veut construire son église. Il est apparu à cette femme qui était une prostituée, qui était possédée par sept démons, qui était une pécheresse. C'est à cela que Jésus nous demande pendant cette année de la famille. Vive des familles heureuses. Des familles qui s'aiment, des familles qui éduquent leurs enfants, des familles qui soient des modèles, pas pour se montrer, pas par orgueil, mais qui montrent le chemin aux autres, qui encouragent les autres à faire le bien, à bien vivre, à aimer. Cette année de la famille, où l'homme et les femmes vont chercher à mieux s'aimer, à mieux se respecter, à vivre dans l'égalité, dans le mariage, dans la maison, mais aussi dans toute la vie de société, dans le travail, dans les loisirs, dans les quartiers. Cette année où nous allons chercher à mieux éduquer nos enfants, à les préparer pour leur avenir, pas seulement nos enfants, mais aussi les autres enfants qui sont autour de nous. Cette année où nous allons ouvrir nos maisons pour que ceux qui sont seuls, qu'ils soient mariés ou non, ceux qui sont rejetés, écrasés, les pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui souffrent, trouvent chez nous une maison ouverte, une famille accueillante, où ils seront compris, soutenus, conseillés et encouragés. L'année de la famille pour toutes les familles, surtout les familles qui souffrent, mais aussi pour ceux qui n'arrivent pas à vivre une vie de famille. Rappelons-nous aussi cette femme adultère. Les Juifs veulent la tuer parce qu'elle a fait le péché. Ils l'ont surprise en train de se coucher avec un homme qui n'est pas son mari, qui n'est pas son mari. Il l'amène à Jésus et dit, qu'est-ce qu'on va faire de cette femme? Moïse nous a dit qu'il faut la tuer à coups de cailloux. Mais d'abord nous remarquons qu'ils ont apporté la femme, mais ils ont laissé partir l'homme qui a fait l'adultère avec elle. C'est souvent ce que l'on fait dans notre société. On condamne les femmes qui ont péché. Et les hommes, on les laisse continuer. On dit, ah, c'est normal, lui, c'est un homme. Un homme ne peut pas être fidèle. Un homme ne peut pas rester sans faire de relations sexuelles. Hein? Mais la femme, on la condamne. Nous connaissons la réponse de Jésus. Celui qui n'a jamais péché, qu'il lui jette la première pierre. Nous connaissons aussi ce que Jésus dit à cette femme. Femme, personne ne t'a condamnée. Moi non plus, je te condamne pas. Jésus ne la condamne pas, mais il l'aide à changer. Il lui dit, maintenant, va, continue à vivre, mais ne pêche plus. Et non seulement il la conseille en lui disant, va, il ne pêche plus, mais il lui dit, va en paix. Il lui donne la paix dans le cœur. C'est cela que nous devons vivre en cette année de la famille, avec tous ceux qui n'ont pas réussi à vivre une vraie vie de famille. Non seulement leur pardonner comme Dieu leur pardonne, mais les aider à vivre une vie nouvelle. Pour terminer notre méditation de ce jour, je vous rappelle d'abord que vous pouvez me poser vos questions, mais aussi partager vos idées, donner vos témoignages, dire comment vous avez vécu ce temps de carême, en me téléphonant ou en m'envoyant des messages par WhatsApp, ou par SMS au 77 680 73 93 07 77 680 93 07. Merci pour votre partage. Vous pouvez aussi m'envoyer vos messages par internet sur mon adresse mail Armel Duteil, tout collé, armelduteil@hotmail.fr. Et donc, voici l'une ou l'autre réponse aux questions qui m'ont été posées. On m'a reposé la question suite à notre méditation sur l'écologie, sur comment respecter l'équilibre entre l'homme et son environnement, entre nous et la terre, l'univers dans lequel nous vivons. D'abord, nous nous rappelons que c'est vrai, nous cassons la terre. Nous la réchauffons avec nos gaz, nos usines, nos produits chimiques. Nous tuons, nous supprimons la vie en tuant les animaux dans la brousse, même les femelles pleines, enceintes, en pêchant et en supprimant tous les poissons dans la mer, même les plus petits, en réchauffant notre terre par nos feux de brousse. La première chose, c'est de nous rendre compte de tout le mal que nous faisons à la terre quand nous ne respectons pas la nature. De garder d'abord l'hygiène, la propreté de la terre. Mais aussi d'arrêter de fatiguer la terre. Alors que nous voulons toujours manger de plus en plus, avoir de plus en plus de choses, de plus en plus de machines, de plus en plus d'objets avec nous. Et en faisant cela, nous fatiguons la terre, nous rendons la terre malade et nous la tuons. Parce que nous consommons beaucoup plus de choses que ce que la terre a produit. Déjà en ces 3 mois de l'année 2021, nous avons fini de manger, de consommer tout ce que la terre pouvait produire jusqu'au 31 décembre. Malgré tout, nous gardons confiance. Le pape nous dit que ce n'est pas trop tard pour protéger, pour reconstruire notre terre. L'être humain nous peut encore intervenir de manière positive. Nous n'avons pas encore tout perdu, nous n'avons pas encore tout cassé. Mais il faut que nous changions. Il faut écouter notre terre qui souffre. Écouter nos frères qui souffrent, parce que quand nous cassons la terre, ce sont les pauvres qui souffrent le plus, eux qui ont le moins d'argent, le moins de moyens pour vivre. Quand le désert avance, quand le monde devient de plus en plus pauvre, c'est eux qui vont souffrir le plus. C'est à eux que nous devons penser. Aimer la terre, aimer les pauvres et les petits. Protéger notre terre, protéger tous ceux qui souffrent. Et l'une des choses, bien sûr, c'est de lutter contre cette maladie, la pandémie, le coronavirus. Pas seulement nous protéger en gardant les gestes barrières, les distances entre nous, en portant le masque, en prenant les précautions qu'on nous demande, en nous lavant les mains régulièrement, en protégeant aussi les autres, mais en gardant la foi. Le pape nous demande, dans cette situation historique, que fait Dieu? Il y a des gens qui disent que la coronavirus, la Covid, c'est une punition de Dieu. Mais Dieu ne punit pas. Dieu nous aime. Dieu est avec nous. Dieu protège notre terre et nous demande de construire notre terre et de la protéger. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus sur la terre. Jésus est devenu homme. Comme nous, il a partagé toute notre vie, nos souffrances à cause de la coronavirus. Non seulement Dieu, Jésus les connaît, mais il les partage. Il était vivant sur la terre, il a partagé la vie des hommes d'autrefois, mais il est vivant, il est ressuscité, il est présent avec son corps dans la communion à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Jésus aujourd'hui continue à partager nos souffrances. Il prend sa croix, il porte sa croix. Il prend en charge tout le mal qu'il y a, toutes ces souffrances, toutes ces morts qu'apporte le coronavirus, le mal physique, la maladie, mais le mal aussi dans nos cœurs, dans nos esprits, et le mal dans notre âme, le manque de foi, le manque de confiance en Dieu, le manque d'espérance, parce que Satan, qui a tenté Jésus au désert, continue à nous tenter pour mettre dans notre cœur la peur, le découragement, le désespoir. vivons ce temps de coronavirus et toutes nos souffrances, toutes maladies, dans la confiance. Qu'est-ce que nous devons faire? La Vierge Marie nous le montre. Marie qui a été la première disciple de Jésus, qui a dit que tout m'arrive selon la parole de Dieu, et qui était debout au pied de la croix dans la souffrance, mais qui souffrait avec Jésus et qui portait la souffrance de la mort de son fils dans la foi. Alors que la nuit s'étendait sur la terre en plein jour, Marie qui a vécu toutes ces souffrances. Terminons cette semaine, vivons tout ce temps, toute notre vie dans la solidarité et la fraternité. Que ces chemins de croix que nous avons suivis pendant le carême nous aident à reconnaître Jésus-Christ dans nos frères et dans nos sœurs qui souffrent et qui continuent le chemin de croix aujourd'hui. Comme le disait Pascal, Jésus continue à mourir, à souffrir aujourd'hui dans nos frères et dans nos sœurs. Il ne faut pas dormir pendant cela. Tout ce que tu fais au plus petit de tes frères, c'est à moi que tu le fais. Vivons tout ce temps, toute notre vie, dans l'amitié, la fraternité et l'amour, grâce à Jésus, avec Jésus et pour Jésus, dans la lumière, la force et l'espérance de l'Esprit Saint, comme des vrais enfants du Père.
Jésus qui le ressuscite, Jésus.